Alors, votre regard de chercheur, de spécialiste en histoire, on a les élections européennes qui viennent. Alors, d'après vous, pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup aux élections européennes et ne votent pas ?
Les jeunes, au fond, négligent non seulement les élections européennes, mais les élections en général, je pense que nous sommes vraiment d'accord sur ce point. Ils ont deux objections, deux réticences à l'égard de cette minorité qui nous dirige, dont nous venons de parler, c'est qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas engagés réellement dans la fonction, mais que plutôt ils cherchent à avoir les privilèges que la fonction leur octroie, et que d'une part, et d'autre part, qu'ils s'accrochent à la fonction, et que notre expérience en Belgique, c'est que ce sont toujours les mêmes qui se représentent, ils changent de poste, mais finalement, on rebat les cartes et c'est sur les mots qui se présentent. En ce qui concerne leur attitude à l'égard de l'Europe, c'est que l'Europe véritablement est méconnue. Les dispositions qu'il vient, que ces dispositions aient un impact sur nos vies quotidiennes, sont mal connues, mal comprises. Et je crois qu'elles sont... C'est pas un manque de communication de la part des institutions européennes, mais c'est une communication pléthorique et qui ne touche pas directement le citoyen. Et que par ailleurs, il faut reconnaître malheureusement que les membres des institutions européennes tiennent le citoyen et la société civile de façon générale à distance. Qu'ils aient...
Pourquoi ?
Je crois que ils sont ce qu'on appelle dans le jargon habituel une sorte d'Olympe, où ils sont très privilégiés. Nous le vivons à Bruxelles de manière plus aiguë encore, parce que nous les voyons vivre dans nos entourages, dans nos voisinages, et on s'aperçoit qu'ils ont des statuts socio-économiques nettement privilégiés par rapport aux citoyens qui a les mêmes compétences, les mêmes responsabilités, les mêmes engagements. Et donc, ça les isole et, en fait, ils sont très conscients de cela et donc ils nous tiennent à distance. Parce qu'il y a là une distorsion démocratique, je crois, tout simplement. Voilà. Mais d'autre part, en sus de cela, ça c'est du côté de l'Europe, en plus de ça, je crois qu'on ne sent pas une véritable union qui serait absolument nécessaire pour la survie de l'Europe, qui, dans le cadre de la mondialisation, est menacée par les pays émergents et qui, ne parlant jamais d'une seule voix, perd en crédibilité à la fois sur le plan international et à la fois à l'égard du citoyen. Il n'y a pas de leadership, en quelque sorte. On ne voit pas ce qu'est le leadership.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette si proclamée Europe des citoyens et que peut faire le citoyen comme tel dans cette situation ?
Naturellement, c'est tout d'abord ce principe de démocratie participative qui, effectivement, devrait se substituer à la démocratie représentative qui a installé un écart et un fossé absolument irréductible entre le citoyen et les personnes qui dirigent la politique de chacun de nos pays. Et c'est la même chose pour l'Europe. Le foyer, le fossé est irréductible. C'est une chose. Mais non, les actions locales me paraissent être une bonne option. Nous sommes, en tant que centre de culture européenne, nous sommes sollicités par des mouvements de revendications alternatifs qui nous demande de participer à des actions citoyennes, mais des actions citoyennes de grande ampleur qui dépassent d'ailleurs le cadre de l'Europe, qui sont citoyens du monde. Étant donné la crise de crédibilité que vit l'Europe, qui est accentuée par la crise économique que nous connaissons, pour des raisons multiples, nous avons cette année créé un programme qui s'intitule « La singularité de l'histoire du continent européen ». Essaye d'attirer l'attention du citoyen sur le fait que le continent européen a une histoire qui lui est propre. Ce qui ne veut pas dire qu'on néglige ou qu'on a le moindre discrédit à l'égard des autres continents, mais il se passe quelque chose en Europe qui s'est passé nulle part ailleurs. Et je crois que ça, c'est un des fondements, c'est un des questionnements fondateurs du Centre de culture européenne. Par exemple, pourquoi est-ce que c'est en Europe et nulle part ailleurs ? qu'émerge l'esprit démocratique. Pourquoi est-ce que c'est en Europe et nulle part ailleurs que les progrès scientifiques et techniques sont les plus percutants, qui vont donner d'ailleurs à l'Europe une prééminence sur le monde pendant très longtemps? Quelles sont les valeurs? Je ne parle pas des valeurs dont les communautés européennes parlent, qui sont la solidarité, dont on peut tout de même mettre quelque part en question, mais des valeurs qui sont inhérentes à l'Europe et qui sont inscrites dans son contexte géopolitique, à savoir la valeur travail, dont on ne parle jamais, qui n'est pas une valeur universelle, mais qui est vraiment une valeur spécifique de l'Europe. Oui. Autre questionnement fondateur, pourquoi est-ce que c'est en Europe et nulle part ailleurs qu'émerge formidable initiative inédite dans l'histoire de l'humanité, à savoir la fusion des souverainetés préconisée par Jean Monnet et une union qui se fait sans hégémonie. Et donc ça, je pense que c'est aussi, ça fait partie, vous voyez, du travail que nous faisons et des questionnements que nous posons pour avancer dans cette recherche de la construction de l'Union européenne, avec au cœur de cette construction le citoyen et tout ce qu'il doit œuvrer pour faire aboutir ce travail.
Vous avez fait une observation très intéressante que parmi les jeunes avec lesquels vous travaillez, les Grecs et les Polonais, vous avez dit, sont les plus mobilisés en termes politiques. Comment vous pouvez expliquer cela?
Je n'ose pas donner une explication, mais c'est pas parce que c'est un peu...
Disons une hypothèse.
Peut-être une hypothèse, oui. Hein. Une hypothèse, c'est que tout de même, en examinant leur programme, puisque quand ils font une candidature pour travailler avec le Centre de culture européenne, ou pour pouvoir faire un échange, puisque nous occupons d'échanges d'étudiants, de professeurs et des projets de recherche, nous leur demandons un curriculum détaillé avec les cours qu'ils ont suivis avant. Donc. Et nous nous sommes aperçus que les Grecs sont des gens qui sont sur le plan politique très mobilisés, qu'ils font des manifestations tonitruantes, vous le savez aussi bien que moi, on s'est aperçu qu'ils ont tout de même des cours de philosophie politique, de littérature classique et d'histoire, qui représentent à l'école secondaire, parce que c'est là que nous posons vraiment les questions, ils sont adolescents, hein, ce sont des éponges à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils ont là une formation citoyenne, vraiment citoyenne, qui s'appuie sur l'histoire, la philosophie, et l'histoire de la philosophie, la littérature classique qui donne des modèles de conduite, et que tout cela, véritablement, me semble-t-il, c'est une hypothèse que vous l'avez dit, pourrait être une explication à cette capacité d'être un acteur de la vie publique, de participer à la gestion de l'espace et de la chose publique dans un espace défini.